D'abord, je vais... Bien, bonsoir. Après une coupure due à des problèmes de santé, je suis très heureux, David, de te recevoir. Nous sommes ce soir le 15 mai 2019 et je vais essayer que tu m'aides et m'inspires dans ma petitesse, dans toute humilité, de répondre à certaines questions par rapport à la Torah et l'actualité.
Alors, concernant l'Eurovision, en pleine période du Homer,
Alors,
comment interpréter
bon,
cet
alors
événement?
comment on interprète cet espace, cette manifestation artistique qui s'appelle l'Eurovision en Israël, en pleine période du Homer? C'est vrai que l'Eurovision commence le 14, a commencé hier et se terminera le 18. D'accord? 14, 18. C'est-à-dire Yad et 18, c'est Chai. C'est-à-dire c'est un espace qui correspond exactement à la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog est dominée au niveau secret par deux chiffres, 14, 18. La Première Guerre mondiale, 14, 18, portait en elle, je crois que je vous l'ai dit, je te l'ai dit une fois, 14, 18 porte en elle cette. Ce début de cette guerre et porte en elle cette guerre de Gog et Magog de la fin des temps. S'il y a trois phases de cette guerre-là, la première phase c'est 14-18 avec les gaz, avec la déclaration Balfour. La deuxième phase, malheureusement, c'est la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah et tout ce qui s'est passé, parce qu'après il n'y a eu que la Shoah, malheureusement, il y a eu plein de choses. Et la troisième phase, c'est ce qu'on va vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu va prendre deux empires qui ont existé que pour ça pendant toute l'histoire, l'empire occidental, dominé par les forces de Rome, et l'empire perse, dominé par les forces de l'Iran aujourd'hui. Dieu les a maintenus dans l'histoire pendant toutes les générations, tous les millénaires, comme un peu comme Israël, tu vois, pour à la fin se confronter l'un l'autre. Et ça, c'est la troisième phase de Gog et Magog, qui se terminera par la mort, enfin, des forces amalécites, des forces d'Amalek. Alors, c'est pas pour rien que l'Eurovision qui se termine le samedi 18 mai, n'est-ce pas, à Tel Aviv, c'est pas pour rien que, rentre dans ce cadre, 14-18, Dieu dit quelque chose de très important, la tête d'Adam Rishon, avant la faute, s'est reconstituée en Eretz Israël, mais face à cette reconstitution, il y a encore la présence de la tête d'Adam Rishon inversée, dédoublée, si tu veux, là-dedans. Il a fallu qu'Israël devienne une nation comme une autre, complètement, 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 plus bas, plus haut possible des nations, comme n'importe quelle nation. Pourquoi elle fait ça? Pour pouvoir faire transmuter, tu vois, pour faire transmuter cette tête d'en bas qui est inversée vers la tête ordonnée. Et ça, c'est le travail d'Israël. Mais ça, il faut une guerre, qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. On est en plein. Cette intervention, c'est pour ça qu'on voit des gens un peu démurés, un peu, tu vois, entre guillemets, disons, bon, je ne trouve pas les mots parce que c'est un peu fantasmagorique, etc., homosexuel, tout ce que tu veux. On est vraiment dans un désordre intérieur et extérieur qui fait qu'en fin de compte, Dieu va intervenir par cette guerre. C'est ça, c'est le signe. C'est le signe de la fin, ça. C'est un des signes de la fin. L'immoralité, notamment sexuelle, regarde par exemple les représentants de certains pays, etc. Bon, la situation est très claire. C'est-à-dire que le code du 14-18, 14 mai au 18 mai, montre que cette Eurovision, c'est un spectacle de la fin des temps.
C'est le côté de la clipa par rapport à... Parce qu'on dit qu'Israël est censé être une lumière des nations, c'est un truc international, un rendez-vous international, mais du côté de la clipa...
Oui, de toute façon, mais évidemment. D'abord, c'est du côté de la clipa.
Parce que il y a beaucoup de rabbins d'Atilobi disent, c'est vrai que la Géoula, elle se construit avec toutes sortes de choses. Il faut qu'il y ait aussi une phase où il y a de la corruption,
Oui, absolument.
du trafic de drogue,
Oui,
de
absolument,
prostituées.
absolument.
Tout le monde vient, ça attire les gens,
Absolument.
il faut
Parce
être
que la
attiré,
tête.
et au final, il y a le tri qui...
Voilà. Alors. Exactement, les rabbinim, ils ont tout à fait raison de dire ça, parce que, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que dans la tête d'Adam Rishon, il y a l'universel. L'universel qui se reconstitue, mais à l'envers. D'accord? Ça veut dire qu'un universel où les nations ont perdu la notion de Dieu. Du Dieu un, mais du maître de l'histoire. Et donc, toute leur histoire à elles, n'est-ce pas, à ces nations-là, est juste. Mais seulement le problème, c'est qu'elle est inversée. Et dans cet inversement de l'ordre des choses et des systèmes, on arrive à une. démoralisation, une immoralisation, une fait que c'est une descente en enfer qui fait que Dieu, va, pour sauver le monde, va être obligé d'intervenir. C'est-à-dire qu'il va, il intervient à un certain moment où le monde est arrivé à un niveau d'impureté tel que cette impureté rentre en Eretz Israël pour pouvoir faire intervenir Dieu. Tu comprends? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un passage obligé à la Géoula. Il faut qu'Israël arrive avec la corruption, avec tout ce que tu as dit tout à l'heure. Avec, on trouve en Israël tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est normal, puisque Israël, c'est la tête d'Adam Harishon, n'est-ce pas, qui se reconstitue d'abord d'une manière inversée, totalement, comme une nation. Il faut que ce soit comme ça. Et une fois que c'est, Dieu intervient dans l'histoire et change le cœur de pierre en cœur de chair, c'est-à-dire véritablement là, intervient dans l'histoire avec une, cette guerre fameuse du Gog et Magog, cette fin de guerre Gog et Magog, qui fait que la nation va se réveiller et va être telle qu'elle-même, telle qu'en elle-même.
Parce qu'il y a en parallèle de la descente, il y a en haut, et ceux qui atteignent des niveaux en niveau dans.
Mais c'est évident.
De dévoilement de la.
Mais bien sûr.
De Kavala, tout ça.
Mais bien sûr.
Historique.
Et, mais c'est évident. D'un côté, jamais la terre d'Israël a été autant. Comment dirais-je, imbibé de Torah. Jamais à ce point, jamais. Les yeshivot sont partout, c'est Baruch HaShem. Maintenant, il faut comprendre que la Torah telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est exactement Emmet à 1000%, mais c'est une Torah d'après la faute. Maintenant, Dieu va le faire entrer dans la Torah qui est la même, bien entendu. C'est notre regard qui va changer. C'est le cœur de pierre qui va devenir cœur de chair, c'est la même. Mais seulement, le problème, c'est que notre vision de la Torah va changer et nous, on va retrouver exactement notre position qui était celle d'Adam Harishon avant la faute. Et pour cela, il faut descendre très très bas.
Ça se fait progressivement, ça se fait par rupture.
Ça se fait par graduation, c'est exactement les 49e jours qui suivent Pessah à Shavuot. Chaque jour compte, c'est une graduation. On arrive au chiffre 33, 33 étant lié, c'est pour ça qu'on allume les feux, l'Agba Omer, 33 c'est lié, ils sont des jours très saints, ce ne sont pas des jours, contrairement à ce qu'on pense, de deuil. En fondamental, voilà, ce sont des gens qui sont des jours qui sont très très saints. C'est un passage obligé à la Kedusha, à Shavuot. Et pour, comme par hasard, Shavuot c'est 7 fois 7.
33e, c'est quoi en
fait ? C'est l'Agba Omer. Le code 33, c'est lié à l'allumage d'un feu saint. Alors tu as un feu saint qui s'allume et un feu pas saint qui s'allume. Le Gog et Magog est lié par le chiffre 33. Si tu veux, c'est la 33e bougie entre guillemets de Hanouka qui s'allume. C'est ça, Gog et Magog.
Parce que 18 et, 30, 18 et 14, 32,
plus... ça fait l'Ev. 32, c'est l'Ev. Plus 1, le Kolel.
Vous dites 14 et 18 oui, tout à l'heure. 14 et 18, ça fait 32.
Ça fait 32, plus 1, ça fait le Kolel, ça fait 33. Et ce 33-là, c'est ce 33-là qui est allumage. Si tu veux, il y a le feu d'en haut, il y a le feu d'en bas. C'est en allumant le feu d'en bas, on allume le feu d'en haut, et réciproquement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'allumage commence par le bas. Tu comprends? C'est pour ça que lorsque tu allumes la bougie de Hanouka, les maîtres du sol disent qu'il faut toujours allumer d'abord le bas de la mèche, et du bas, la flamme monte. C'est très difficile à faire, mais c'est ça le but. Pourquoi? Parce que c'est notre monde. Nous, on va allumer la mèche, n'est-ce pas? Et tout va quelque part flamber. Et ça, ça devient ça. Pourquoi ça devient ça? Parce que l'humanité va comprendre qu'il y a un plan. Et c'est cette compréhension du plan de l'humanité que Dieu attend depuis des millénaires. De l'humanité, pas d'Israël. Et nous, on n'est qu'un vecteur de sainteté. Un peuple saint et une nation, un peuple de prêtres, une nation sainte. Mais pour qu'on arrive à un peuple de prêtres et une nation sainte, il faut passer par, entre les parenthèses, le football, l'Eurovision, etc. Parce que nous sommes universels. Quand l'universel est arrivé à ce niveau-là, il faut qu'on soit exactement au même niveau que l'universel. Mais avec une capacité de sauver cet universel. Tu vois, l'universel ne peut pas se sauver sans Israël, mais Israël peut sauver l'universel. Tu vois la différence ?
Mais concrètement, comment on peut sauver ça ?
Comment on peut sauver ça ? Par Gog et Magog. C'est-à-dire que les gens vont être pris par surprise. Tout le monde, ce qui se passe entre l'Amérique et l'Iran, évidemment, c'est prévu déjà depuis Bereshit. Les goïms ont oublié parce qu'ils n'étudient pas comme nous on étudie, ils n'ont pas le même chemin que nous, mais les prophètes le disent. À la fin des temps, il va y avoir une guerre terrible entre Rome, c'est-à-dire aujourd'hui l'Amérique, l'Occident et la Perse. Alors, il y a quelques-uns qui disent que c'est la Perse qui va gagner, mais la plupart disent que c'est Rome qui va gagner. Mais qu'est-ce que c'est que cette guerre-là de Magog, 14-18, d'accord, 14-18, c'est une guerre contre l'immoralité. C'est une guerre contre la Touma, ce qu'on appelle chez nous la Touma, ça veut dire l'impureté. C'est une guerre qui va permettre à Dieu de se dévoiler. Parce que Dieu ne peut pas se dévoiler dans ce monde-là. Il est trop impur. Il est trop désordonné. Il est trop malade. Il est cancéreux. Il est cancéreux. Tiens, je vais te donner un saut très important. Là, je vais rentrer un peu dans le saut. Un tout petit peu, si je peux me permettre. D'accord ? Comment le Machiav va régler le monde ? Comment le Machiav va guérir le monde, d'après toi ? Tu as une idée ? Comment il va guérir le monde ? Pratiquement. Alors, je te réponds, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je te réponds. Le Machiav va guérir le monde par l'intermédiaire de sa femme. Parce que la Malchut est féminine. C'est la femme du Machiav qui va porter en elle toutes les forces qui, pendant un temps de sa vie, de son mariage, entre guillemets, avec, je vais dire, Moshe, n'est-ce pas ? Eh bien, elle va porter cette impureté. Elle va être une nation. Elle va être l'ensemble des nations. Et progressivement, le travail de décodage de Moshe va faire en sorte qu'elle va transmuter. Et à un moment donné, toutes ces forces qui sont en elle vont être extirpées par Hachem. Et à partir de ce moment-là, elle va transmuter, elle va dominer la Chétraïl. C'est comme ça que le monde, parce que le monde ne peut transmuter que si la femme du Mashiach transmute. Parce que c'est la faute de Chava, c'est pas la faute de la dame Chava. C'est la faute de Chava qui a tiré Adam. Tu comprends ? Donc il faut Chava, un petit compte d'enfer là. Et comment elle s'appelle la femme du Mashiach ? En fait, Tzipora. La femme de Moshe. Et Tzipora n'était pas juive au début. C'était la fille de Yitro, une Midianite. C'est quoi les Midianites aujourd'hui ? Tu as compris ? C'est quoi les... Je l'ai dit autrefois, ce sont les Français, au niveau des forces. Et voilà une Française qui va devenir, qui va porter en elle toutes les valeurs de la République, de la laïcité, de la France, etc., etc., que Dieu va faire venir à Jérusalem avec son mari, et qui, elle, va se battre pendant des années, contre ce que dit son mari, etc. Ça va être un enfer pour ce qu'on appelle, entre guillemets, le machia à l'intérieur de son couple, parce que tout simplement, il aura son contraire. Et ça, c'est le Zivouk. Et tout le travail du Machiav, ça va durer des années, des dizaines d'années, va être de faire transmuter cette âme qui vient de Chava et qui va être transmutée en Sarah, ta-ta-ta-ta-ta. Tzipora. C'est pour ça que c'est Tzipora qui a fait la circoncision des enfants de Moshe le 8e jour, par le chiffre 8. Parce que Tzipora, à la fin des temps, va rentrer dans l'éternité. Et c'est ça le travail du Machiav Ben David. Se faire transmuter, c'est un grand saut que je te donne là, à se faire transmuter sa femme. Tu comprends ? Alors, bien sûr, bien entendu, on ne sait pas qui c'est le Machiav pour l'instant, mais un des signes secrets du Machiav, c'est qu'il aura réussi à faire transmuter sa femme, et notamment Esther. Esther Hadassah qui devient Esther, la reine Esther. La reine Esther, c'est la Malchut. C'est la reine Esther, c'est la Malchut. La reine Esther porte en elle les nitzotzot, les âmes, l'âme de Chava et de Sarah Imanou. Tu comprends ? La reine Esther, on va rentrer un peu plus dans le secret, la reine Esther va se coller, va se s'unir à l'âme de cette femme qui au début n'était pas juive, qui s'appelle Tzipora, la femme de Moshe, qui est une femme extraordinairement puissante, qui est la Ishé trahie de l'histoire, hein, et à l'intérieur de Esther, il y a Sarah Esther, évidemment, évidemment, c'est par le code 127, bien entendu. Il va y avoir aussi Rachel, Léa, etc. Rivka, Rachel, Léa, etc. Toutes les Imaot qui vont se rentrer dans l'âme de Tzipora et qui vont la faire transmuter. Et c'est comme ça que le monde va transmuter. C'est pour ça que le monde va transmuter par la femme. C'est pour ça qu'en fin de compte, le féminisme, ce sont les forces, tu comprends, qui veulent empêcher la femme de transmuter. T'as compris ? Et le Machiav va être quelqu'un, une période, qui va permettre, sous les ordres de Dieu, de faire transmuter Chava en Sarah, Tzipora, et à partir de ce moment-là, il va y avoir l'union des concerts qui va se faire entre elle et son mari. Moshe va retrouver sa femme à la fin des temps. C'est ça le Machiav Ben David. Tu comprends ? En un mot. Donc c'est comme ça que Moshe va... C'est comme ça que ça c'est très peu connu ça, mais c'est comme ça que Moshe va réussir à sauver le Machiav va réussir à sauver le monde. C'est comme ça que ça va se passer par la transmutation de sa femme elle, parce que évidemment dans le couple la femme c'est le reflet de l'homme, d'accord, c'est l'inverse, exactement l'inverse. Et c'est évidemment le Maharal de Prague qui explique très bien ça, c'est l'union des contraires par la voie moyenne. C'est pour ça que cette femme qui est extrêmement silencieuse dans la Torah, on en parle très très peu, Hein, après, c'est une, on dit la couchite. D'accord ? C'est tout. Pourquoi ? Parce qu'elle travaille en silence. Pendant toute l'histoire.
C'est ça du Shira Shiris ?
Ben, bien sûr. Mais c'est chez Traïl. Mais évidemment, c'est chez la chérie, bien entendu. C'est la femme vertueuse. Est-ce que tu as une autre question? Non, pour le temps, j'ai le temps. Encore une question.